On a besoin aussi que d'autres fabricants adoptent ce matériau.
En toute transparence.
Pour que la collecte et le recyclage de ces emballages soient mutualisés et que l'impact soit maximum. Et donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de le mettre en open source.
Le podcast En toute transparence a été imaginé en partenariat avec l'ADEME.
Bonjour à tous, je suis David Garbous, fondateur du cabinet Transformation Positive. Bienvenue dans ce nouvel épisode de En toute transparence, le podcast qui raconte le succès des entreprises qui intègrent la RSE au cœur de leur offre. Dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes, sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable, en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliquent en toute transparence les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées et nous donnent des clés pour réussir. Et pour la saison 3 de ce podcast, j'ai toujours avec moi en studio des étudiants qui, après avoir écouté avec attention nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ce discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement. Dans cet épisode de En toute transparence, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Brucker, la directrice RSE France et Benelux de Colgate Palmolive. Bonjour Caroline.
Bonjour David.
Alors d'abord quelques mots sur toi si tu veux bien, parce que tu as un parcours que j'ai trouvé intéressant, atypique. Tu es passé du marketing à la RSE. En caricaturant un peu, on va dire que tu es passé du brasseur de vent à l'empêcheur de tourner en rond. J'aimerais savoir ce qui a déclenché chez toi l'envie de faire ce chemin, la satisfaction que tu trouves aujourd'hui, et si du coup en ayant les deux visions, c'est plus facile pour toi de parler au marketing aujourd'hui en ayant été à leur place il y a quelques années.
Merci pour la question. Alors, j'ai envie de dire que je n'aurais pas fait 19 ans de marketing si j'avais considéré que c'était être brasseur de l'air. En revanche, pour continuer cette analogie, si on voit le chef d'orchestre qui brasse de l'air, effectivement, mais je considère que le marketing, c'est être un chef d'orchestre.
D'accord.
On est chef de projet puisqu'on doit concilier la R&D, les attentes des consommateurs, les attentes réglementaires, une réalité économique pour développer des produits et lancer donc des innovations et des produits qui servent à quelque chose. Et c'est cette compétence que je trouve est très intéressante pour continuer dans cette démarche et aller vers la RSE, puisqu'il faut aussi tenir compte de toutes ces réalités pour imaginer des produits.
Qu'est-ce que c'est le déclic que tu as eu ? C'est un cheminement personnel ? C'est une opportunité de création de poste ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu passes de
l'un à l'autre ? C'est vraiment un cheminement personnel. J'avais envie, ça faisait longtemps qu'à titre personnel, je m'intéressais à ces sujets. Et j'ai commencé par le bien-être animal, notamment à titre personnel, et ensuite l'empreinte carbone est devenue quelque chose d'important pour moi. Et j'ai voulu que mon métier corresponde à mes attentes personnelles. Et
d'accord.
Donc, j'ai proposé de créer ce poste en France.
Donc, ça a été une création spécialement
exactement.
Pour la France. Très
ouais.
bien. Et du coup, le fait que tu aies cette double culture ou connaissance marketing et RSE, ça te permet de mieux travailler avec les équipes marketing, de mieux leur montrer l'intérêt de travailler en intégrant la RSE.
Exactement, avec les équipes marketing, mais pas que. Il faut aussi emmener tout le monde avec soi, que ce soit les équipes de R&D, les équipes finance, commerciales, toutes les équipes. Et c'est la force d'avoir été chef de projet ou chef d'orchestre en étant directrice marketing avant.
Excellent, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager ton expérience sur un enjeu qui est hyper important dans l'industrie. Hein. C'est un enjeu qu'on a catégorisé d'éco-conception. Alors éco-conception, pour les gens qui nous écoutent, c'est faire en sorte que le développement d'un produit, du sourcing des matières premières, c'est-à-dire de la recherche de ces matières premières jusqu'à la fin de vie, se soit pensé en tenant compte de l'ensemble des impacts sur l'environnement, en cherchant bien entendu à réduire ces impacts au maximum. On a été très longtemps et on est encore trop souvent dans une économie linéaire où on a tendance à extraire des matières premières, les utiliser au mieux et puis derrière gérer la fin de vie. L'éco-conception, ça permet de limiter les impacts et vous avez travaillé sur un sujet qui nous a beaucoup intéressé dans la plateforme et dont on va parler. Alors pour commencer, quelques mots sur Colgate Palmolive. Donc vous êtes une marque mondiale, née aux États-Unis il y a deux siècles. Vous êtes maintenant présent dans plus de 200 pays. Les rayons dans lesquels on trouve vos marques, c'est l'hygiène, l'entretien, ça fait trois quarts de votre chiffre d'affaires, avec des marques comme Colgate, Elmex, Palmolive, Sanex ou Tahiti. Et le quart restant, si mes informations sont exactes, vous êtes dans les aliments pour animaux avec la marque Hill's qui est le numéro un mondial. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 19,4 milliards d'euros en 2023 et pour le quatrième trimestre, vous annoncez une part de marché mondiale sur vos secteurs de 41,1%. Pour ce qui est du dentifrice, c'est de 31,5% dans les brosses à dents. grande et grosse structure. Alors, comment on fait bouger un mastodonte comme ça?
Alors, j'ai précisé, les Hills fait effectivement partie du groupe. En revanche, c'est une filiale complètement indépendante, donc je ne m'en occupe pas en France. La part de marché, effectivement, du dentifrice est importante. Et j'ai envie de dire, ce qui est encore plus important, c'est qu'on est présent dans presque 6 foyers sur 10 dans le monde en termes de pénétration. Donc, ça nous oblige, effectivement, c'est un pouvoir, bien sûr, mais ça nous oblige aussi à travailler cette marque et cette catégorie de produits encore plus que nos concurrents. Et effectivement, c'est assez complexe d'accompagner l'ensemble des pays sur les problématiques de prévention d'hygiène bucco-dentaire, bien sûr, et ensuite sur l'éco-conception, mais on va le traiter avec des ambitions globales et des exécutions plus régionales.
Et vous avez effectivement des pays qui sont leads sur certains sujets, ou c'est globalement tous les pays qui doivent s'aligner à partir d'une stratégie pensée au niveau global? Comment ça
Alors, la stratégie est vraiment réfléchie au niveau global à New York, qui est le siège mondial de l'entreprise. En revanche, nos outils industriels et les exécutions de R&D sont faites au niveau région. Donc pour nous, ça sera l'Europe.
Le comité de sélection a retenu Colgate pour une démarche d'éco-conception, donc, qui concerne vos tubes de dentifrice. Donc en 2021, quand vous lancez cette innovation, la majorité des tubes de dentifrice ne sont pas triés. Ils sont jetés à la poubelle classique et sont donc très mal valorisés. Et c'est vrai qu'on s'est tous demandé quoi faire de nos tubes de dentifrice en plastique une fois qu'ils sont terminés. Alors Caroline, pourquoi ces tubes en 2021, ils ne sont pas recyclés? Est-ce que c'est parce qu'ils sont faits de matériaux trop complexes? Pourquoi finalement il n'y avait pas de solution jusqu'en 2021?
Alors c'est vrai que la majorité des dentifrices, que ce soit dans notre groupe ou chez les concurrents dans le reste du marché, sont faits en polymatériaux jusqu'à cette époque-là, à savoir que c'est un mélange de couches d'aluminium et de plastique.
D'accord.
Pour pouvoir avoir cette souplesse dont on a besoin pour extraire la pâte et en même temps préserver la formule, l'isoler de l'extérieur, comme c'est une formule aqueuse, on a un risque bactérien assez significatif et donc il faut pouvoir garder cette barrière. Et donc l'ensemble des dentifrices était en polymatériaux. Et qui dit polymatériaux dit complexité extrême à trier ces différents matériaux et donc à pouvoir recycler ce tube.
Et donc vous décidez, alors il y a déjà sur le marché du monomatériau, mais sur de l'aluminium, enfin du métal, je ne sais pas quel est le métal exact, hein, mais,
oui,
mais ce n'est pas votre choix stratégique, vous, vous êtes sur le plastique plus?
Alors après, notre mission, c'est de procurer des dentifrices qui soient efficaces, sûrs et accessibles à tous.
D'accord.
Et donc, il y a la logique de prix qui entre en compte dans nos cahiers des charges et qui fait qu'effectivement, des emballages en aluminium ne sont pas vraiment concevables avec des prix accessibles à tous.
Parce que l'aluminium, c'est plus cher que le plastique. Très clair. Donc, vous allez chercher à trouver une solution pour que ce plastique, on puisse effectivement le recycler. Et vous arrivez, dites-vous, après 5 ans de recherche et développement, à un 100% monomatériaux.
Oui.
Alors, les gens qui nous écoutent vont peut-être se dire, 5 ans, c'est hyper long. Et en même temps, certains vont se dire, c'est hyper bien. Alors, dis-nous ce qu'il en est vraiment. Pourquoi ça prend ce temps-là? Et qu'est-ce qu'il faut passer comme étape avant de pouvoir mettre un produit comme ça sur le marché?
Alors, effectivement, ça peut paraître long sur une échelle de recherche et développement. Ça l'est pas forcément. La raison pour laquelle ça a pris autant de temps, c'est d'abord, il faut trouver le bon matériau. Et ça, on a eu beaucoup de réitérations, puisqu'au départ, on est parti sur une seule couche de plastique.
D'accord.
Mais on avait ces problèmes de craquelure, de difficultés à extraire la pâte, etc. Ensuite, on est passé, et ça a été la révolution quelque part, ça a été de réfléchir à monomatériaux, mais en couches très fines superposées les unes avec les autres.
D'accord.
Ce qui permet d'avoir cette souplesse, mais aussi cette protection, cette barrière de la pâte versus l'extérieur. Et donc, ça a pris du temps pour trouver en fait ce modèle-là.
Le bon dosage et la bonne...
Voilà. Le bon plastique aussi, parce on parle de plastique au sens général, mais en fait, il y a des dizaines de types de plastiques différents. Donc, il y a d'abord cette première phase qui a été d'identifier ce matériau et comment le construire pour en faire un tube. Mais il a fallu aussi ensuite vérifier avec les centres de tri et ensuite les recycleurs cette capacité à être effectivement identifiée comme étant un matériau recyclable et ensuite effectivement de voir comment ça se comportait dans la filière de recyclage. Et donc ça, c'est beaucoup de travail avec des partenaires pour trouver la bonne solution. Et enfin, après ça, il y a tout l'outil industriel qu'il faut mettre adapté exactement, trouver les bons fournisseurs, bien sûr, d'emballage, mais aussi tous les outils industriels à développer. Comme on est présent dans 200 pays dans le monde, on a un certain nombre d'usines dans le monde, et donc il faut aussi déployer tout ça dans les usines.
Très clair. Quand on dit monomatériaux, donc c'est le tube, le bouchon aussi, vous avez pensé l'ensemble du dispositif, c'est ça?
Alors, pour l'instant,
dans ce fameux PEHD?
C'est du PEHD, mais monomatériaux en 9 couches sur le tube. C'est encore un bouchon en PP.
D'accord.
Donc c'est pas encore idéal, on va dire. Néanmoins, le PP et le PEHD se comportent de façon assez semblable dans la partie recyclage, et donc c'est accepté par la majorité des centres de tri et de recycleurs ensuite.
Pendant le palmarès réussir avec un marketing responsable de l'année dernière, on a parlé de ce type d'initiative en mettant le mot coopitalisme en avant, c'est-à-dire un capitalisme coopératif. C'est un pari en fait qui consiste à se dire que pour franchir des caps stratégiques critiques et pour diminuer les impacts, il faut accepter la coopération, là où avant on était auparavant dans la pure compétition. Est-ce que c'est ça qui a guidé votre choix chez Colgate, et est-ce que vous visiez des marques et des distributeurs en particulier? Est-ce qu'ils ont adopté, là on est 3 ans après, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un état des lieux de où en est le marché? Est-ce que vous êtes parti tout seul? Est-ce que vous avez été vite rejoint? Et comment ça s'est passé?
Alors, on est parti seul en termes de fabricants de dentifrice, en revanche avec nos partenaires d'emballage, notamment Albéa, avec qui on a travaillé cette solution, puisque c'est eux qui nous fournissent les rouleaux de tubes en plastique et c'est nous qui les formons ensuite dans nos usines. En revanche, la décision de le mettre en open source a été prise très rapidement, puisqu'on s'est senti responsable. Comme je le disais, on est présent dans 6 foyers sur 10 dans le monde. Néanmoins, on n'est pas tout seul. On a besoin aussi que d'autres fabricants adoptent ce matériau pour que la collecte et le recyclage de ces emballages soient mutualisés et que l'impact soit maximum. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de le mettre en open source.
D'accord. Bah c'est aussi une façon de faire un peu un nouveau standard de marché et de faire en sorte que le geste de tri final soit plus systématique auprès de tous les consommateurs. Et j'imagine le tri auprès des centres de tri plus efficace derrière.
Exactement.
Parce qu'ils n'ont pas à trier les vôtres versus les concurrents.
Exactement. Ils vont pouvoir effectivement identifier l'ensemble des tubes de dentifrice comme étant potentiellement recyclable, même si c'est le rayon laser qui détermine techniquement en France en tout cas le type de matériaux que l'emballage peut avoir et donc va trier assez automatiquement les différents types de plastique.
Donc le tube passe au rayon laser, s'il est suffisamment considéré comme monomatériau, il va être mis dans une certaine case et si c'est pas le cas, il est mis dans une autre filière.
Son matériau est lu directement en fait.
D'accord.
Et pour en revenir sur la question de comment est-ce que la concurrence s'est comportée, on a été très heureux de voir qu'effectivement un concurrent majeur a adopté notre technologie et les autres ont travaillé une solution semblable avec leurs fournisseurs aussi.
D'accord.
Ce qui fait que les 4 plus gros acteurs, donc Colgate Palmolive du monde, ont annoncé passer à un PEHD monomatériau sur leur tube de dentifrice. Et 3 ans plus tard, on peut le constater sur la majorité des dentifrices présents sur le marché aujourd'hui. On ne s'est pas arrêté aux grands concurrents. On a aussi organisé des séances de partage d'informations avec les ingénieurs packaging de Colgate Palmolive, mais aussi des marques distributeurs en France et dans d'autres pays dans le monde, pour qu'eux aussi puissent considérer cette technologie pour leur marque propre.
Ils ont quelle part de marché en France, par exemple, les distributeurs?
C'est assez faible. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est à peu près 5% de part de marché. Donc, c'est relativement modeste en France.
Et donc, on peut dire là que 90% du marché a basculé en PEHD monomatériaux, si je prends...
Oui, alors, je peux pas compter chacun des tubes présents sur le marché, mais globalement, c'est ce qu'on peut espérer dans les prochaines années, oui.
Très bien. Alors j'avais une question, mais tu as déjà commencé à y répondre, c'est comment tu t'assures, une fois que le projet est développé, qu'effectivement, on va au bout de l'idée, c'est-à-dire que, un, le consommateur comprend que ce produit se recycle versus se jette à la poubelle classique, et deux, une fois qu'il a fait ce geste de tri, comment tu t'assures qu'il est effectivement repéré dans le centre de tri et trié, et est-ce que... ce matériau-là, il y a une partie que vous rachetez dans une logique d'économie circulaire ou est-ce que c'est du PEHD qui va être recyclé et vous achetez par ailleurs du PEHD recyclé pour mettre dans vos formules? C'était un peu long comme question, mais je crois que tu as...
Je vais essayer de répondre à l'ensemble des éléments, effectivement. On a la chance en France d'avoir eu un changement de consigne pour les consommateurs. En 2023, maintenant, on a ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Donc, ça veut dire que tous les consommateurs en France, tous les foyers, peuvent maintenant mettre tous leurs emballages dans la poubelle de tri.
Donc ça a énormément facilité la vie, en fait.
Exactement. Le consommateur n'a plus besoin de se poser la question de savoir si cet emballage, il est recyclable ou pas. Donc, finalement, notre communication à nous, c'est de dire, pensez aussi à vos emballages de la salle de bain, et à la mettre dans la poubelle de tri, parce que ça, c'est vrai que ça reste encore compliqué. On a plutôt tendance globalement à penser aux emballages dans la cuisine, mais pas forcément à ceux de la salle de bain. Donc ça va être plutôt cette éducation, cette sensibilisation qu'on va devoir faire.
Et ça passe par des communications, comment dirais-je, sur le packaging, sur les...
Oui, alors la contrainte, c'est qu'en réalité, les consommateurs lisent assez peu les emballages. Donc ça passera plutôt par des campagnes de Citeo, qui est l'organisme de collecte mandaté par le gouvernement pour organiser les collectes avec les collectivités locales, pour qu'ils fassent des campagnes et sensibiliser sur le fait que tous les emballages vont dans la poubelle de tri. Ensuite, effectivement, on va travailler avec les centres de tri pour les accompagner sur identifier cet emballage. Et donc, on avait fait des tests avec Citeo en 2021, justement, pour voir comment se comportait notre tube dans quelques centres de collecte type et représentatif
des différentes technologies,
français.
J'imagine, qui existent sur le territoire français.
Ouais. Oui, tous les centres de tri ne sont pas au même niveau d'avancement en termes de technologie, donc le comportement peut être différent. Et la problématique principale, finalement, encore une fois, c'est pas tellement la lecture de l'emballage, ça se fait assez facilement par le tri optique. C'est en revanche, en amont, il y a d'abord un premier tri sur le volume de l'objet,
d'accord,
de l'emballage, qui fait que le tube est un peu petit, finalement, pour être trié facilement. Donc il passe assez vite dans certains centres de collecte comme étant un déchet qui n'est pas recyclable, malheureusement.
Parce qu'il n'est pas identifié suffisamment. Il suffit que le consommateur l'ait un peu tortillé pour aller au bout du,
ouais,
du,
exactement,
du tube.
Exactement, c'est aussi pour ça que pour les bouteilles d'eau, on dit maintenant il ne faut plus les écraser, il faut les garder grandes pour que, effectivement, ça passe bien dans les fines, qui sont des, grandes, des grands rouleaux qui trient en fonction de la taille de l'emballage.
D'accord. Donc, et là, avec 3 ans de recul, tu dirais que bah, sur 100 kilos de tubes de dentifrice usagés qui arrivent dans les centres de tri, il y en a quelle part qui est effectivement triée? Vous avez réussi à identifier ce chiffre et à le faire progresser, j'imagine.
Alors,
sur 3
malheureusement,
ans.
Même quand on a fait le test avec Citeo, ils n'ont pas été capables de nous donner un chiffre.
D'accord.
Ils nous ont dit qu'effectivement, on avait fait la bonne démarche, mais qu'il fallait effectivement que les centres de tri continuent de monter en compétences et en technologie pour pouvoir davantage le trier. Et ils ne font pas de mesure à l'emballage de façon récurrente. Donc, on n'a pas forcément moyen de trier et de savoir où on en est. Ce qu'on sait juste au niveau global en France, et malheureusement, c'est que le plastique n'est pas encore suffisamment trié et recyclé par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés en tant que société française, mais aussi par rapport aux objectifs que l'Europe nous a fixés.
Est-ce que le gisement de PEHD a augmenté? Ça pourrait être un indicateur qui montre qu'effectivement, il y a plus de matière rentrante, mais c'est peut-être un peu aléatoire par rapport à l'ensemble des produits qui arrivent dans un centre de tri.
Alors, j'avoue ne pas avoir les chiffres, donc ça, je ne sais pas. Mais pour revenir à ta question de est-ce qu'on intègre du recyclage maintenant. Donc nous, on ne cherche pas à récupérer directement nos tubes pour en faire de nouveaux tubes. Et on n'a pas encore de matériaux recyclés dans notre tube. Un des problèmes principaux avec ça, c'est qu'on a besoin d'une qualité, ce qu'on appelle la qualité alimentaire pour ce plastique, puisqu'on est en contact avec un produit qui va aller dans la bouche. On a besoin de la meilleure des qualités de plastique possible, donc le contact alimentaire. Et le gisier de plastique recyclé qualité contact alimentaire est très limité.
D'accord.
Or, nous, on est sur une économie d'échelle. Hein, on est sur des marques qui font de gros volumes avec Colgate, Elmex et Meridol. Hein, et on a besoin d'avoir une garantie d'approvisionnement régulier pour pouvoir intégrer du matériau recyclé. Donc, ce n'est pas encore le cas.
Mais j'ai vu que ça faisait partie des objectifs, 25% à horizon 2025.
Alors ça, c'est au niveau du groupe de plastique recyclé, effectivement, dans nos emballages. On y arrive beaucoup mieux sur nos produits d'entretien de la maison, puisque là, on n'a pas forcément besoin de cette qualité alimentaire. Donc, on arrive à avoir du 100% recyclé sur nos flacons d'Ajax, par exemple, ou de Soupline. Mais sur les dentifrices, ce n'est pas encore le cas.
Très clair. Alors, pour finir sur ce point, je pose souvent cette question parce que dans un projet, finalement, on voit les difficultés et puis la réussite. En fait, c'est une question double. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans le dispositif? Avec ces 3 ans de recul, je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et puis, la plus grosse difficulté que tu as contournée et comment tu as réussi à convaincre à ce moment-là? Est-ce que ça a été justement une dimension technique? Est-ce que c'est le marketing qui t'a aidé? Donc, peut-être en premier point, de quoi est-ce que tu es le plus fier?
Cette mise en open source a été une source de fierté, justement, pour moi, mais aussi pour l'ensemble des collaborateurs. Et alors, je vous cache pas que, venant d'une entreprise américaine, nous-mêmes avons été un peu surpris d'avoir ce critère d'open source. Mais quand on comprend effectivement le contexte et les enjeux qu'il y a derrière, on a été très fiers de pouvoir le dire et de pouvoir le partager, effectivement, avec... donc des concurrents, mais aussi avec nos distributeurs, nos clients. Et je ne vous cache pas qu'eux aussi ont été un petit peu surpris. Ça leur arrive pas souvent d'organiser des réunions comme ça, de partage de technologies avec leurs industriels.
Voilà. Ouais. Excellent. Et la plus grande difficulté, comment tu l'as contournée? Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marquée?
La difficulté, je ne sais pas. En revanche, petite frustration dans le sens où on sait que ce genre de démarche prend beaucoup de temps. On en a parlé. Prend du coup, effectivement, nécessite de gros investissements. Et n'est pas forcément beaucoup valorisé par les consommateurs, malheureusement, parce qu'il faut tenir compte de la réalité, des faits que les critères RSE ne font pas forcément partie des premières décisions d'achat pour les consommateurs. Ce que je comprends très bien, hein, bien sûr. Néanmoins, on a du mal à le valoriser avec les consommateurs, puisque ça ne fait pas partie de leurs critères principaux. Donc, c'est une petite déception de ce côté-là.
Et c'est vrai que ça, c'est un message pour ceux qui nous écoutent. C'est hyper important. Quand on se lance dans des démarches RSE, en particulier quand on est au marketing, on a souvent envie, parce qu'on a réussi quelque chose, de raconter cette histoire RSE à fond. Et on perd de vue trop souvent le bénéfice principal que les gens viennent acheter quand ils viennent acheter vos produits. Et on est déçu du résultat. Parce qu'on a l'impression que... Et ce qu'on restitue, c'est les consommateurs déclarent vouloir des produits responsables et puis ils ne les achètent pas. C'est souvent le marketing qui fait une erreur, en fait, parce qu'il va positionner la promesse RSE beaucoup trop haut. Et l'enjeu, c'est d'abord de rassurer sur le fait que les dents sont bien lavées, si je prends cet exemple-là, que la laine est fraîche, je ne sais pas si ce sont les bons insights, et qu'effectivement, derrière, il y a un tube recyclé. Mais si on met la dimension tube recyclé en premier lieu, effectivement, on risque de perdre les gens ou de toucher qu'une fraction très infime de la population qui est particulièrement sensible à ces sujets-là. Donc, c'est hyper important, effectivement, quand on met en place des démarches RSE, de les positionner et de les raconter, parce qu'il faut raconter sa différence tout le temps, mais de les raconter au bon niveau, après avoir rassuré sur les insights principaux de la catégorie. Moi, je connais bien l'univers de l'alimentaire. Un produit parfaitement responsable, mais dégueulasse, ne sera acheté qu'une fois et jamais racheté. Donc, c'est hyper important de travailler cette hiérarchie. Merci pour ces précisions-là. J'avais une dernière question avant de passer à la suite. On a beaucoup parlé du contenant. Je voudrais parler un tout petit peu du contenu, parce que donc, dans les différentes gammes, j'ai fait un travail de consommateur. Je suis allé scanner avec Yuka les différents produits. Et vous avez dans les gammes des produits qui sont notés 100 avec la marque Elmex. Donc, truc de malade sur Yuka, être noté 100, c'est hyper rare. Et puis, le produit Colgate, comme la majorité des autres produits sont notés plutôt 40, 50, parce qu'il y a un certain nombre d'ingrédients à l'intérieur qui sont considérés par cette application. Je ne sais pas si c'est... Tu nous diras ce que tu en penses. Comment on fait quand on a effectivement plusieurs marques? Tu vas me parler de segmentation. Mais je me dis, si vous savez faire un produit qui est capable d'être noté 100, pourquoi vous ne le faites pas en termes de formule sur l'ensemble de votre offre pour que vous soyez le meilleur acteur du marché?
Notre priorité, c'est de procurer une prévention au quotidien des différentes pathologies qu'on peut avoir dans la bouche et donc de formuler des dentifrices qui soient sûrs, efficaces, à un prix abordable toujours. Voilà, ça, c'est notre priorité. Et donc, finalement, des notations comme Yuka ou comme d'autres applications ont un point de vue différent. Et fondent sur des critères qui peuvent être différents. Donc voilà, donc c'est pas forcément notre priorité d'avoir des notations particulières sur nos dentifrices. Notre priorité, c'est de formuler avec des ingrédients qui soient efficaces, sûrs, et tout ça à un prix abordable. Donc il peut y avoir des différences de point de vue là-dessus. Et voilà.
Et donc vous gérez du 40 et du 100, c'est aux consommateurs de se renseigner et de choisir. Très clair. Un petit point... À l'issue de cette première partie, les conseils que tu aurais envie de donner aux autres entreprises qui nous écoutent aujourd'hui pour réussir une stratégie d'éco-conception, et puis aux étudiants qui nous écoutent aussi, quelles sont un peu les clés, si tu devais donner deux ou trois astuces?
Alors pour les entreprises, j'ai envie de dire qu'il faut être ambitieux, réaliste et juste à la fois. Alors c'est peut-être un peu bizarre. Ambitieux dans ses objectifs, parce qu'effectivement, il faut qu'on transforme nos économies, nos produits, nos services pour réduire notre impact sur l'environnement. On en aura toujours, hein, il faut être réaliste sur l'impact. Mmh. Néanmoins, on peut travailler à le réduire, donc il faut être ambitieux. Mais il faut être aussi réaliste, on en parlait tout à l'heure. C'est pas forcément la priorité des consommateurs, mais aussi il y a des contraintes dans l'entreprise technique, financière, qui fait qu'on n'arrive pas forcément exactement là où on veut aller tout de suite. Donc on peut passer par des étapes aussi qui sont un peu mieux, qui ne sont pas forcément encore parfaites, et d'ailleurs personne n'a la solution parfaite, mais qui sont déjà un petit peu mieux. Et il faut être juste, il faut être juste dans la façon dont on communique les choses, montrer effectivement ce qu'on a réussi à faire, mais là aussi où il y a des limites.
D'accord.
Pour que le message passe de façon sincère et qu'on là aussi, les attentes répondent aussi à la réalité de ce qu'on peut proposer. Je vais prendre des exemples, par exemple des éco-recharges, qui réduisent souvent la quantité d'emballage et de plastique par rapport aux flacons d'origine. Donc ça, c'est déjà une bonne première étape. Les éco-recharges sont pas forcément, dans un premier temps, recyclables. Donc il y a cette limite-là, par exemple.
Oui, un problème en amène un autre. Faire attention à toute la chaîne de valeur. Ouais.
Est-ce qu'il ne faut pas les faire? Je ne sais pas. C'est pas forcément évident parce qu'on a quand même réduit la quantité de plastique utilisée. Est-ce qu'on peut travailler sur une deuxième génération qui soit recyclable après? Oui, en fait. Mais entre-temps, on aura déjà fait adopter le geste de la recharge par certains consommateurs.
Bon, moi, je suis assez fan de ce message. Je pense que c'est hyper important, effectivement, quoi qu'il arrive, d'avancer, même si ce sont des petits pas, parce que les projets sont d'une complexité inouïe et il n'y a rien de pire que de rester immobile, comme dit je ne sais plus qui. Quand on est immobile, on recule. Donc, des petits pas, mais en permanence, avec une ambition élevée, effectivement, c'est aussi ce qui permet de transcender les équipes. Je pense que c'est hyper important de jouer ce...
Tout en admettant que ce sont des petits pas, aussi.
Exactement.
Donc, ne pas surenchérir là-dessus. Et pour les étudiants, j'ai envie de dire... Il faut aussi rejoindre les grands groupes quand on a envie d'avoir un impact. Alors, c'est vrai que, parce qu'on souffre parfois un peu de recrutement pour recruter les plus jeunes, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu plus de temps qu'une start-up ou d'autres initiatives pour lancer quelque chose d'éco-conçu, parce qu'il y a une certaine lourdeur dans les entreprises. Néanmoins, l'impact peut être là, puisqu'on a une forte présence dans le monde.
Et ouais.
Effectivement. Donc, ça dépend de quelles sont ses aspirations et ses envies personnelles, mais on peut faire de belles choses dans les grands groupes.
Eh bien, c'est un bon message pour les étudiants qui nous écoutent. Merci beaucoup. Est-ce que il y a une bonne pratique que tu as repérée dans ton périmètre ou carrément ailleurs que tu aurais envie de nous recommander pour le palmarès 2024? On aime bien avoir cet œil un peu de peer-to-peer, les choses qui bougent selon toi dans le bon sens et que ça vaudrait le coup qu'on regarde d'un petit peu plus près.
Alors moi, je pense pas que vous l'ayez déjà reconnu. C'est le Petit Bateau et leur modèle de vêtements d'occasion.
Très bien.
Que je pense que tu connais.
Absolument, c'est une très belle démarche, absolument.
Exactement.
Eh bien, écoute, on va les contacter. C'est très bien, c'est noté. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Bérénice, Nello et Caroline. Et chers étudiants, j'aimerais savoir ce qui vous a particulièrement marqué dans la présentation de Caroline, si vous considérez que l'exercice de transparence a été réussi et pourquoi, et quelles questions vous auriez envie de lui poser pour enrichir cet entretien.
Bonjour Caroline, c'est Caroline aussi. J'ai appris plein de choses et je trie maintenant mon dentifrice depuis 2-3 ans et je ne savais absolument pas que cette initiative venait de chez Colgate et que vous avez partagé votre technologie. Et donc ça, je trouve ça effectivement, comme vous disiez, c'est votre fierté et je trouve ça absolument assez incroyable sur un marché si compétitif. Donc vraiment, ça, c'est super. Après, la question, effectivement, c'est que vous n'avez pas que du dentifrice, vous avez des produits d'hygiène et de nettoyage. La question, effectivement, c'est, vous aviez évoqué la part de plastique recyclé. Est-ce que le sujet du plastique et de la réduction du plastique même, c'est aussi un sujet que vous traitez sur les produits d'hygiène que vous avez?
Effectivement, dans nos objectifs de 2025, on cherche à réduire de 25% la quantité de plastique utilisée. Et ça passe par différentes solutions. Et donc, j'ai évoqué les éco-recharges. Sanex, les gels douches Sanex ont été parmi les premiers à lancer des éco-recharges. Donc, on essaye de trouver des solutions sur chacune des catégories de produits.
Ok, merci beaucoup.
Alors, la deuxième question, c'est Nello qui prend place. Bonjour. Cher Nello.
Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très très intéressant. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des expérimentations de prévues sur la partie vrac et comment ça se passe pour votre secteur?
Alors, effectivement, pour donner peut-être un peu de contexte à l'audience, la loi AGEC a un article qui impose aux distributeurs 20% de leur surface ou de leur chiffre d'affaires ou des références qu'ils ont en offre vrac d'ici 2030. Donc c'est une des ambitions qui sont très fortes et qui nous oblige aussi bien sûr en tant que fabricants et donc à proposer des produits pour les distributeurs. Les solutions ne sont pas encore totalement identifiées, donc et on a fait des tests nous-mêmes sur des produits d'entretien pendant le Covid, donc c'était pas le meilleur moment pour faire des tests en magasin. Néanmoins, on a eu beaucoup de leçons suite à ce test, qui se retrouvent dans la plupart des autres fabricants aussi. Et finalement, pour faire court, c'est la mutualisation de toute la réflexion logistique industrielle qu'il faut faire. Donc, on en revient
un peu. Co-hospitalisme de nouveau pour ce sujet-là.
Exactement, qui prévaut. Donc, pour l'instant, Colgate ne fait pas encore partie de l'initiative en avant-vrac, notamment, qui est menée par différentes enseignes et grandes consommations, puisqu'ils s'orientent davantage sur des produits solides pour l'instant. Néanmoins, on suit de près cette initiative et on essaiera d'accompagner ce test dans les prochaines années.
Bérénice, troisième et dernière question.
Merci beaucoup, Caroline, déjà pour toute la présentation de l'initiative. Effectivement, c'est une initiative qui est très, très inspirante. Et j'ai trouvé que l'exercice de la transparence était bien réussi, notamment avec l'explication des enjeux R&D et tout le process de recyclage sur un aussi grand nombre d'usines. Je pense qu'on ne se rend peut-être pas compte de l'ampleur et de l'impact de la chose. Donc, c'est vraiment super de pouvoir y voir un petit peu plus clair. Pour suivre la question de Nello, donc, qui traitait du vrac, moi j'ai une question sur tout ce qui est innovation anti-déchets. Donc là, effectivement, on a parlé du plastique recyclé, on a parlé du vrac avec Nello. À quand le dentifrice solide? À quand les produits Colgate solides qui, du coup, limiteraient les déchets qui sont aussi une grosse problématique actuelle?
Et l'utilisation de l'eau aussi, qui est un de vos enjeux stratégiques?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Alors, beaucoup de questions et beaucoup d'enjeux dans cette question. Le solide, on a commencé à le travailler, à proposer des solutions sur, là encore, Sanex en gel douche. On a aussi lancé des assouplissants souplines en dose, en pastille, qui permet donc de réduire la quantité d'eau utilisée dans nos produits, mais aussi de passer à des emballages, alors soit en carton pour le savon Sanex, pour l'assouplissant, on est encore sur un sachet, puisqu'il faut que les tablettes restent solides. Ouais. Sur les dentifrices, on a déjà fait un test en e-commerce l'année dernière, en 2022. On a eu des leçons qui montrent que c'est encore compliqué de faire adopter ce geste par un grand nombre. Encore une fois, notre mission, c'est d'offrir des produits qui soient accessibles à tous. Et on a besoin d'un passage à l'échelle pour pouvoir proposer des solutions. Donc, on a eu des leçons sur ce test. On est en train d'adapter le produit et les offres d'emballage qui étaient là, un flacon en verre, à une logique de prix aussi, bien sûr. Donc, on est en train d'adapter ce qu'on a proposé. Et on aimerait pouvoir le déployer en grande consommation cette année ou pour l'année prochaine.
D'accord, j'ai hâte.
Quand tu dis on a eu des leçons, ça veut dire que ça n'a pas marché, pour être clair, dans cette étape 1, et c'est pas grave.
En termes de volume, c'était pas rentable, possible pour nous en termes de production.
Et vous essayez là de trouver des alternatives. Il y avait un sujet de prix, d'après ce que tu dis. Il y avait un sujet...
Perception prix, parce qu'en réalité, à l'usage... c'était pas très beaucoup plus cher, contrairement à d'autres solutions, qu'un produit dans un tube, mais sauf que les consommateurs connaissent mal la quantité et le temps d'usage d'un dentifrice en tube, donc du coup cette comparaison était pas du tout évidente pour le consommateur.
Alors, pour en avoir fait l'expérience à titre personnel, c'est vrai que ça demande un changement d'habitude assez radical, et qu'au début on est un peu décontenancé par le fait de mettre une pastille dans sa bouche et de pas avoir ajouté d'eau, ou quasiment pas, et puis que l'homogénéité de la texture se fait pas immédiatement, donc je pense qu'effectivement il y a un enjeu R&D assez colossal.
L'offre de Colgate était un petit peu plus agréable, j'ai envie de dire. C'est évidemment peut-être subjectif de ma part, mais que d'autres offres déjà disponibles sur le marché, puisqu'on avait déjà essayé de travailler effectivement ce côté mousse et fraîcheur, qui sont les attentes, les perceptions du consommateur, même si nous on essaye d'aller plus sur la prévention des pathologies de la bouche. Néanmoins, ces signes sont perceptibles et sont importants pour le consommateur. Mais on peut encore améliorer cette perception pour le faire adopter par le plus grand nombre. Ouais.
Donc, enjeu R&D et enjeu marketing aussi, on revient au début de notre conversation, puisqu'effectivement, il faut faire la pédagogie de l'usage et embarquer les clients en leur donnant envie d'essayer ces nouveaux comportements.
Exactement.
C'est des superbes défis. Et bien, écoutez, on arrive à la fin de ce podcast. Merci, chers étudiants. Merci à toi, Caroline, de t'être prêtée au jeu. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager, le commenter. Et à très vite pour de nouveaux épisodes.
En toute transparence a été créé avec le soutien de l'ADEME, de l'Union des marques, de l'ILEC, de l'ADETEM, de Citeo, de l'école Audencia et de l'agence Pixelis.
So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante.
L'humour sauvera-t-il le monde ?
Spoiler, oui.
Et comment ?
La preuve en 25 pages et autant d'histoires. De Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar al-Assad.
Et c'est tout ? Juste de l'humour ?
Non, dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant.
Ou une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
So Good, en vente partout chez vos marchands de presse.